Deuxième partie, chapitre 10, les menaces de Poltavo. « Vous désirez voir M. Moule ?» demanda M. Fall à son visiteur. « Oui, c'est M. Moule que je désire voir, » répondit Poltavo. Il ne s'était pas borné à sonner à l'entrée de la maison magique, mais avait pu dire le mot de passe qui le faisait accueillir par le docteur. « Maintenant, dites-moi ce que vous désirez ?» demanda celui-ci à mi-voix lorsqu'il lui fait entrer. « Conduisez-moi auprès de Farrington, » répondit froidement le comte. « Farrington ?» s'exclama Fall en fronçant du sourcil. « Eh oui, pas tant d'histoires. S'il vous plaît, je suis Poltavo. »«
Je le sais, parbleu, bien qui vous êtes, » répliqua calmement Fall. « Mais pourquoi arrivez-vous ici avec l'intime conviction d'y trouver feu, Monsieur Farrington ? C'est ce que je m'explique pas. C'est ici un asile et non un cimetière. »
Cependant, il précéda le visiteur jusqu'au salon du premier et là, une fois toute porte bien fermée, demanda « Mais que vous arrive-t-il ? » Poltavo lui conta sa visite à la préfecture de police. Fall l'écouta en silence.
« Bon, je doute fort que Farrington veuille vous voir, » dit-il enfin. « Il n'est pas très abordable. C'est ainsi, mais je vais voir. »
Il resta absent 10 bonnes minutes, puis revint appeler Poltavo. Ils se rendirent à la même chambre où le chef de police avait vu M. Moule. Tout y était semblablement disposé, mais en outre, Farrington en personne, et tel que Poltavo l'avait vu la nuit de sa disparition, se tenait debout au milieu de la pièce.
« Mais pourquoi êtes-vous venu ici ? » cria-t-il à Poltavo. « Vous allez amener à vos trousses toute une bande de détectives. »
« Je vous crois que vous ayez à redouter les détectives, fussent-ils 100 000 ?» fit Poltavo, qui ajouta en jetant un rapide regard au docteur Fall. « Je voudrais vous voir seul, Monsieur Farrington. » Le docteur sortit. « Maintenant, » reprit Poltavo, en s'avançant d'un air menaçant, « voulez-vous me dire à quoi vous avez pensé, sale traître que vous êtes, en confectionnant votre idiot testament ?»«
Asseyez-vous, » répondit froidement Farrington, « et sachez bien, Poltavo, que je ne permets pas que l'on me questionne sur ce ton-là. »
« Mais vous êtes en bon pouvoir, » gronda Poltavo. « Et vous savez bien que je n'ai qu'à lever le petit doigt pour réduire en poussière tous vos beaux plans. »«
Mais c'est aussi bien d'autres choses, et si vous en étiez averti, vous tiendriez mieux votre langue. »«
Asseyez-vous, qu'y a-t-il donc de cassé ?»«
Mais pourquoi avez-vous tout disposé dans votre testament, de telle sorte que Doris doive épouser cet infernal Dofton ?»«
Pour d'excellentes raisons. »
Ben, « expliquez-les.
Oh, je ne ferai pas cette sottise. Qu'il vous suffise de savoir que mon désir est d'assurer le bonheur de ma nièce.
Ne savez-vous pas que cela a été le but de ma vie et que mon affection pour elle est ce que j'ai de plus précieux au monde? Je veux qu'elle soit heureuse et je sais qu'elle le sera avec Dofton. »
Folie, grogna Poltavo. Elle commençait déjà à m'aimer.
C'est absolument impossible.
Pourquoi impossible, je vous prie?
Pour plusieurs raisons. Et la principale, c'est que vous n'êtes pas même digne d'être son valet de pied.
Oh, excusez-moi, si je suis obligé de vous rappeler que vous êtes un faussaire, un voleur, un assassin.
Vous venez de le dire vous-même à Fall, reprit Farrington, après un instant de silence.
J'ai ici des instruments perfectionnés qui me permettent d'entendre des conversations assez lointaines.
Mais, ajouta-t-il, devant le geste de surprise de Poltavo, je n'avais pas besoin de cela pour m'éclairer sur votre compte. J'ai des documents aussi complets que ceux de votre ami Smith. Et je vous le dis nettement, si d'une part, j'accepte que vous me serviez et vous permet d'en tirer de beaux profits. D'autre part, je donnerai ma vie pour empêcher Doris d'être à vous. C'est compris ?
Un hideux sourire passa sur les lèvres de Poltavo.
C'est votre dernier mot? Demanda-t-il. C'est mon dernier mot. Si vous m'écoutez, vous laisserez les choses suivre leur cours. Vous êtes sur le point de faire fortune, ne gâtez pas vos chances avec cette sentimentalité et cette ambition absurde. Alors, quoi qu'il arrive, vous vous opposerez à ce que j'épouse Doris. Oui, c'est exactement ce que je pense et ce que j'ai dit. Et si je vous forçais la main? Fit encore Poltavo en retroussant d'un air méchant sa légère moustache. Comment? Et si je profitais de ce que Miss Gray, jeune fille sensible et impressionnable, a déjà plus que de la sympathie pour moi, et si je l'épousais malgré tout? Alors vous vous en repentiriez, dit Farrington, et vous pourriez même regretter d'avoir proféré pareille menace. Je ne me borne pas à menacer, gronda Poltavo. Mais je le ferai, et nous verrons bien si vous pourrez m'en empêcher. Se disant, au comble de l'exaspération, il agita son poing fermé sous le nez de Farrington. Celui-ci, sans s'émouvoir, le considéra longuement, d'un regard pénétrant, comme pour arriver jusqu'au fond de son âme. « Je regrette fort ce contretemps, » dit-il enfin à mi-voix. « J'avais espéré faire de vous un homme utile, Poltavo, mais je me suis trompé. N'aurais-je jamais cru que vous vous laisseriez ainsi emporter par... Voyons, est-ce son argent, sa fortune que vous convoitez ?»« Mais je me moque de l'argent, » dit-il. « C'est elle que je veux. Je vous le dis, Farrington. Elle me devient chaque jour plus indispensable. Oh, d'autres femmes vous ont paru également indispensables, autrefois. » répondit Farrington d'une voix ardente. « Et vous avez profité de leur faiblesse, fané leur beauté pour un instant de plaisir. Et puis qu'avez-vous fait? Vous les avez rejetés, comme un fruit dont on a savouré la pulpe embaumée. Oh, je connais votre passé, mon ami, et tout ce dont je veux m'assurer présentement, c'est de la sincérité de votre menace, parce que alors... » « Alors quoi ?» Parce que si vous avez réellement l'intention de faire ce que vous avez dit, vous ne sortirez pas vivant de cette maison. » Il parlait si tranquillement et sans forcer la voix que Poltavo fut un moment sans bien saisir le sens de ses derniers mots. Mais soudain, son sourire un peu obséquieux s'éteignit sur ses lèvres et d'une main preste, il sortit son revolver. « N'essayez pas de me jouer quelque mauvais tour, » dit-il. « Je me suis prémuni contre toute éventualité, monsieur Farrington. Vous avez tort de me menacer. Je crains plutôt que ce ne soit vous qui ayez eu tort de vous fier à vos propres précautions. Essayez donc votre arme. J'ai l'impression qu'elle est vide de cartouches. » D'un coup d'œil, Poltavo s'assura que Farrington disait vrai. Il devint livide. « Voyons, voyons, » dit-il, « finissons donc de nous quereller. Je suis venu voir en quoi je pourrais vous être utile. Vous êtes venu essayer de me contraindre de changer mes vues sur le mariage de Doris, et je regrette que vous ayez eu cette idée. » Il pressa un bouton de sonnette à portée de sa main, et le docteur Fall entra. « Veuillez faire donner quelques rafraîchissements au comte, » dit-il. « Il va repartir pour Londres. » Ces mots, calmement dits, rassurèrent Poltavo qui s'était senti envahi de terreur. Cette immense et silencieuse maison l'effrayait. Pénétré d'une nouvelle assurance, il se retourna sur le seuil et dit avec insolence, « Vous ne revenez donc pas sur votre décision ?» « En aucune manière, » répondit Farrington. « Très bien. » Il suivit Fall le long du corridor jusqu'à la porte de l'ascenseur que le docteur lui ouvrit. Poltavo entra et la porte se referma aussitôt sur lui. « Comment dois-je manœuvrer cet ascenseur ?» demanda le comte à travers le croisillon métallique. « Je le mets en marche de l'extérieur, » répondit le docteur Fall. En effet, il pressa un bouton et l'ascenseur se mit à descendre lentement. Il passa devant un premier corridor. C'était le premier étage. Puis un autre, c'était le corridor. Et là, il ne s'arrêta pas et continua sa course vers les profonds sous-sols. Au bout de quelques secondes, il se posa devant une porte, ou plutôt une grille, formée d'épais barreaux d'acier. À l'arrivée de l'ascenseur, la porte s'ouvrit. Poltavo se tenait maintenant sur ses gardes. Il ne sortit pas immédiatement de l'ascenseur, mais, redoutant toute éventualité, il écrivit rapidement quelque chose au crayon sur un panneau de bois de la cage. Puis il s'avança dans l'espace à demi éclairé qui s'ouvrait devant lui. Il se trouva dans une assez grande chambre meublée d'un lit et quelques chaises. Sur une table, il y avait une faible lampe électrique, mais de nombreux interrupteurs aux parois lui firent espérer une plus abondante lumière. Il se fouilla hâtivement. Il avait généralement sur lui quelques cartouches supplémentaires, et en effet en trouva deux dans une poche de son gilet. C'était très probablement son domestique qui, payé peut-être par Farlington, avait vidé le magasin de son revolver. Ayant vaguement reconnu l'état des lieux, il essaya de faire un peu de lumière. Il tourna un interrupteur au hasard et trois ampoules électriques s'allumèrent simultanément. Un autre geste acheva d'inonder la pièce de clarté. C'était évidemment une chambre souterraine, mais confortablement aménagée et pourvue de ventilateurs. Poltavo considérait attentivement ce qui allait être sans doute son domaine lorsqu'il entendit soudain un cliquetis métallique. Il se retourna et vit la porte de l'ascenseur se rabattre d'elle-même et tout l'appareil remonter doucement vers les étages supérieurs. Il se trouva stupide de s'être laissé prendre de la sorte. En tout cas, il aurait bien dû mettre une chaise en travers de la porte de l'ascenseur. Mais les sièges n'étaient pas fixés? Non, ils étaient libres, sauf un, le grand fauteuil, lourd et profond, qui était solidement vissé au parquet. Dans un coin, un panneau de boiserie paraissait mobile. Poltavo pensa qu'il s'agissait de la cage d'un monte-charge pour le service. En quoi il voyait juste, car l'instant d'après, le panneau s'ouvrit et la planchette descendante apparut, chargée d'un plateau où était disposé un substantiel repas. Il prit le plateau et en inspecta le contenu. Il y avait là une note écrite au crayon disant « Ne craignez pas ces mets. Le docteur Falls en porte garant et viendra les goûter sous vos yeux si vous en témoignez le désir. Pour appeler quelqu'un, pressez le bouton de sonnette placé sous la table. » Poltavo avait très faim. Il décida de se fier aux promesses du billet. Après tout, il était si complètement au pouvoir des maîtres de la maison magique qu'il était bien inutile de se méfier d'une chose plutôt que d'une autre. Il absorba donc l'excellent repas qui lui était servi, et quand il eut terminé, il sonna. Il n'attendit pas longtemps. Bientôt, il entendit un léger glissement de l'ascenseur et s'en rapprocha, le revolver au poing. Mais soudain, il s'entendit appeler. Il se retourna et aperçut le docteur Fall debout devant lui, au centre de la pièce. Il sursauta. « Vous ai-je fait peur ?» dit le docteur en souriant. « Non, je ne suis pas venu du côté où vous m'attendiez. C'est qu'il y a plusieurs issues à cette pièce. « Mais puis-je savoir pourquoi vous me traitez ainsi ?» demanda Poltavo. « Votre indignation est tout à votre honneur, comte, » répondit tranquillement Fall en tirant son étui à cigare de sa poche. Il le tendit à son prisonnier. « Fumez-vous ? » ?»« Non ? Bon, tant pis. Alors une cigarette, alors ?»« Non, merci, j'en ai sur moi. » Le docteur décapita tranquillement son cigare et l'alluma. « Je suis tout prêt, » dit-il enfin, « à répondre à votre question. » J'agis sur les ordres de M. Farlington, qui est violemment irrité contre vous et qui me paraît en ce moment tout disposé à vous traiter aussi durement que les deux constructeurs de cette maison dont il avait reçu des lettres de menace. Bon, je me moque bien de ces gens-là, je les ignore. Vous avez tort, l'un d'eux était un excellent architecte et l'autre un ingénieur électricien remarquable. Chargés des travaux de construction et d'aménagement de cette maison, ils ne se sont pas contentés de leurs splendides honoraires, mais ont cherché à toucher l'avantage par des moyens détournés, dont le principal effet était leur mort soudaine une nuit en pleine rue, à Blackley Square. Ah, vous voulez dire que Farlington les a tués? Oh non, je n'irai pas jusque-là. Je dis seulement qu'ils sont morts. Malheureusement pour eux, ils n'agissaient pas de concert. Ils se sont disputés en s'apercevant qu'ils avaient tous deux l'intention de vendre leur silence à M. Farlington. Ah ah, je comprends maintenant, dit Poltavo. Ces deux excellents gentlemen ayant été tués devant la maison de M. Farlington, ce ne peut être que lui. Encore une fois, je n'oserais pour ma part conclure aussi vite, répondit tranquillement le docteur. Oh, je remarque seulement que ces deux personnages ont une fin prématurée du fait de leur désir inconsidéré d'extorquer de l'argent à M. Farlington. Et j'ajoute, comte Poltavo, que vous risquez fort de partager ce déplorable destin. Je me suis trouvé dans des impasses plus terribles que celle-ci, grommela Poltavo en cherchant à cacher son inquiétude. Ne vous vantez pas trop, mon cher. Je doute fort de ce que vous venez de dire. Nous sommes tout prêts à vous envoyer dans un monde meilleur, car d'ordinaire, M. Farrington ne laisse pas libre champ à ses ennemis. Cependant, dans le cas particulier, il est disposé à vous laisser encore une chance. Il pense que vous savez maintenant de quoi il est capable. Il ne vous demande aucune promesse solennelle, aucun serment. Il voudrait simplement vous voir bien convaincu que vous serez magnifiquement récompensé si vous le servez fidèlement, mais que votre mort est certaine si vous contrecarrez ses plans. Est-ce clair ? Limpide, répondit Poltavo, en rallumant sa cigarette d'une main tremblante. Je vous confierai encore, reprenait le docteur, lorsqu'il fut interrompu par une forte sonnerie. Fall se leva et alla se poster auprès d'un panneau qui ne présentait aucune particularité, mais derrière lequel devait se trouver un téléphone. Voilà, dit-il, oui, j'entends. Très bien. Il se retourna et regarda gravement Poltavo. On m'informe, lui dit-il, que la maison est actuellement cernée par la police. On vous a évidemment suivi. Poltavo eut une lueur aux yeux. Très désagréable pour vous, dit-il. Encore plus pour vous, fit le docteur en se dirigeant vers l'ascenseur. Arrêtez. Le docteur se retourna. Poltavo braquait sur lui son revolver. Je vous prie de croire, dit le comte, que cette fois mon revolver est chargé. J'avais heureusement quelques cartouches de réserve dans ma poche. Il y en a assez, en tout cas, pour... Il n'en dit pas davantage, car à ce moment même, toutes les lumières s'éteignirent, et à son discours interrompu, un rire moqueur seul répondit « Tirez donc !» Ces deux cartouches étaient trop précieuses pour être gaspillées dans l'obscurité. Il demeura donc immobile, prêt à tout. Soudain, la lumière revint, mais le docteur Fall avait disparu. Le prisonnier haussa les épaules. Si M. Smith l'avait filé jusque-là, et s'il avait cru devoir faire cerner la maison, Poltavo pouvait espérer une délivrance prochaine. Sinon, il n'avait qu'à faire de bonnes promesses à Farlington. Il entendit bientôt le déclic de l'ascenseur qui s'arrêta devant sa porte. Les portes s'ouvrirent. Il saisit l'occasion, y entra et referma la porte. Aussitôt, l'appareil se mit à remonter. Il était éclairé par deux petites ampoules électriques. Poltavo les cassa avec la crosse de son revolver et, l'arme à la main, s'était prêt à tout événement. Monsieur Smith était alors dans le hall avec deux agents et le docteur Fall, toujours imperturbable et poli. « Oh, il vous est parfaitement loisible de perquisitionner partout, disait-il. Et quant au comte Poltavo, il est en effet ici, attiré comme tant d'autres par les merveilles de nos installations mécaniques. » Quelque chose dans ces mots ironiques surprit le policier. « Montrez-nous le comte, dit-il. » « Avec plaisir. » À ce moment même, l'ascenseur s'arrêtait en face d'eux et Poltavo apparut, l'arme au poing. Apercevant le groupe, il eut vite décidé avec qui il devait plutôt s'entendre. Il savait bien, au fond, qu'il n'avait rien de bon à attendre de la police, tandis que l'affluent de Farlington pourrait lui être encore fort utile. « Vous avez la joji-joujou, lui dit Smith. « Que craignez-vous donc en visitant les œuvres d'art du château ?»« Oh, rien du tout, » répondit Poltavo. « Mais il y a dans le sous-sol une installation de tir où je me suis un peu exercé. Vous devriez aller visiter cela, monsieur Smith. Cela en vaut la peine. » Fall, qui n'avait pas quitté Poltavo du regard, eut une lueur approbative dans ses yeux sombres. En temps ordinaire, je ne prendrais pas la peine de visiter un tir de salon, dit M. Smith, étant donné surtout que vous ne me dites pas la vérité, mon cher comte. J'ai l'impression, d'autre part, que ma présence ne vous est pas nuisible en ce moment. Pour toutes ces bonnes raisons, il ne me sera peut-être pas inutile, en effet, d'aller visiter cette partie de l'immeuble que je ne connais pas encore. Le docteur haussa les épaules. On ne peut guère appeler cela un tir, dit-il, mais comme c'est dans le sous-sol, on l'utilise quelquefois pour des exercices d'armes à feu. Je ne vois d'ailleurs aucun inconvénient à ce que vous y alliez voir par vous-même. Monsieur Smith entra dans l'ascenseur, rendu obscur par suite des précautions prises un moment auparavant par Poltavo. Je descends seul, déclara le chef de la police. Monsieur Fall s'inclina, referma la porte, et l'ascenseur partit. Ils attendirent quelque temps. Fall, qui pouvait seul manœuvrer l'appareil à volonté, était maître de la situation. Mais il avait sans doute de bonnes raisons pour ne pas en abuser. Et au bout de quelques minutes, l'ascenseur réapparut. M. Smith en ressortit. « Merci. Je sais maintenant ce que je voulais savoir. » dit-il avec un léger coup d'œil à Poltavo. « Mais vraiment, docteur Fall, votre demeure est extraordinairement aménagée. »« Elle est toujours ouverte à vos investigations, » répondit le docteur poliment. Monsieur Smith joua un instant d'un air distrait avec sa petite lampe électrique, puis il se dirigea vers la grande porte. Là, il se retourna. « Votre prudence est remarquable, » dit-il à Poltavo. « Lorsque vous vous êtes vu pris au piège, vous avez eu la précaution de signaler votre passage par écrit. Mais maintenant que votre inscription a atteint son but, vous serez bien avisé en conseillant à vos amis de l'effacer. » Là-dessus, après un léger salut, il sortit de la maison suivi de ses trois acolytes. « Qu'a-t-il voulu dire ?» demanda vivement Fall. Ben, il a vu, bégaya Poltavo, fort démonté et troublé. Il a lu quelques mots que j'avais écrits au crayon en descendant dans l'ascenseur. Oh non, rien de grave, je vous assure. Une simple phrase pour annoncer que j'étais emprisonné dans les sous-sols. En poussant un juron, Fall se précipita dans l'ascenseur. Elle explora la lueur d'une allumette. Il vit ce que Poltavo avait écrit. Cela ne dévoilait certes pas le secret de la maison magique, mais c'en était assez pour éveiller les soupçons de l'actif chef de police. « Vous en faites de belles, vous dit sévèrement le docteur. Tâchez de ne pas recommencer. Pour cette fois, on s'arrangera, mais une récidive vous serait fatale, à vous le premier. » Tenez-vous-le pour dit.